Je vous présente juste une seconde mon ami et collègue Mantia Diawara qui a organisé tout ce programme de conférence avec moi, qui est arrivé de New York tout à l'heure et je suis péniblement jusqu'à cette salle, mais ce n'est pas grave, voilà. On en est au débat que tu prends en cours.
Et j'ai aussi écouté, je pense que c'est la présentation de Florence.
Non, j'ai changé. Oh, je sors. J'ai fait une nouvelle collection, un peu.
Je trouverai des excuses plus tard, parce que je ne sais pas comment les faire.
Oui, Françoise.
C'est juste une toute petite remarque à propos de ce que vous avez raconté sur le moment d'empathie. C'est le moment, pourquoi ça dure ça qu'un moment? Parce que c'est quand même à ça qu'on est confronté. Il y a une succession de moments, alors il y a des grandes émotions, et puis on retombe, et puis voilà. Peut-être qu'on changeait personne, enfin, mais la situation des uns et des autres est étrangement semblable dans l'état désespérant des gens qui essayent d'arriver et de s'assembler. Et pourquoi les différences sont si radicalement différentes entre ceux qui arrivent et supérieures aux différences de ceux qui sont... parce que les différences entre nous, entre les gens qui sont là depuis plusieurs générations, sont aussi importantes qu'avec les nouveaux qui arrivent. Et pourquoi les différences des nouveaux sont plus insupportables à une grosse partie de nos contemporains?
Oui, parce que d'autres arrivées ont été très très mal accueillies aussi. Oui, mais je crois que tu parles pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que tu parles de ces moments d'émotion où on voit le cadavre du petit Yelan sur la plage, il y a une grosse émotion et ça retombe et voilà. Et ça ne se traduit pas en action politique, en pression sur le gouvernement, que sais-je, ou sur l'Europe. Et je crois que Véronique parlait de ce moment dans des situations qui vont créer, elles, de l'entraide. Et là, je ne crois pas que ce soit quelque chose d'éphémère, en tout cas, à partir des témoignages, ce qu'elle décrit, à partir de témoignages. C'est plutôt justement, mais pour des individus, le déclenchement d'une action de solidarité sur la durée. Ce qui est différent de l'émotion d'une image dans les médias qui elle, effectivement, est éphémère et la situation, par ailleurs, continue catastrophique, ça c'est sûr. Mais c'est pas...
chose que tu abordes souvent, c'est sympathie et empathie. Et si tu veux, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je n'opposerai pas aussi radicalement l'empathie comme quelque chose de plus digne et plus pur et la sympathie compassionnelle, parce que je crois qu'on est traversé par les deux à des moments différents et parfois même presque simultanément quand on est dans l'action, comme Véronique racontait l'accueil d'un enfant qui avait... Tu peux être traversé par les deux. Si tu veux, je comprends théoriquement l'opposition, mais dans le vécu de chacun, je pense que ça ne s'oppose pas comme ça.
Non, je crois que tu as raison. D'ailleurs, moi, je voulais insister parce que, d'autant plus, si tu veux, qu'actuellement, cette notion d'empathie, comme la notion de care, par exemple, sont un peu... se diluent un peu, deviennent des mots comme ça, voilà. Donc, je voulais essayer de revenir un petit peu à ce qui est le concept d'empathie qui fonctionne à la fois sur quelque chose de l'ordre de... de la sensibilité, mais aussi de la connaissance. Mais la sensibilité aussi, et en ce sens, alors que la sympathie est essentiellement dans la sensibilité. Mais tu as raison, en même temps, il y a sensibilité et connaissance dans l'idée d'empathie.
La question de la compréhension,
oui.
Et neurone mimétique, c'est-à-dire si je vois quelqu'un tomber, le neurone de la chute s'active dans ma tête, je tombe avec lui sans tomber, etc. etc.
Tout à fait, et donc, d'ailleurs, pardon.
Comment ?
Non. Je ne voulais pas t'interrompre. Non, c'est d'ailleurs une notion qui est aussi, enfin, bon, c'est vrai qu'elle vient de la phénoménologie, enfin, elle a pas mal transité, une notion un peu nomade, mais elle est reprise, elle est cognitiviste aujourd'hui, en effet.
C'est une chose très forte en réalité, très cognitive, voilà. Très intellectuelle, mais qui enveloppe toute une série de paramètres. C'est l'émotion qui met en turbulence le système de compréhension, qui change.
Je me demandais si y a toujours quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que finalement il me semble qu'une des conditions du désir qu'on a vers l'autre, c'est aussi le désir justement de ce différent, quelquefois de cette innommable, de ce qu'on peut pas connaître justement de l'autre. Et je me souviens toujours de par exemple, mon fils, quand il était petit à New York, enfin jeune à New York, au lycée français, où il côtoyait des amis venant vraiment d'univers complètement différent. Et il y avait notamment un de ses camarades qui lui avait dit « Ah, tu sais, vraiment, j'ai toujours rêvé, je rêverai d'être noir. » J'ai toujours rêvé d'être noire. Et je pense que ce désir, finalement, une des conditions du désir, peut-être c'est aussi cet élan, peut-être empathique, justement, de connaître l'autre, même si on sait qu'on ne peut pas le connaître vraiment, puisqu'on vient de... Il est différent, il est fondamentalement différent, mais finalement... on peut en avoir une saisie un peu de cette, Edouard disait, de cette opacité, disons. Il disait toujours, on n'est pas forcé de connaître l'autre pour l'aimer, par exemple. Voilà. Donc ça, je pensais que c'était assez intéressant. Et puis, une autre chose, alors excuse-moi si c'est encore un peu perso, mais toujours par rapport à mon fils, toujours, excusez-moi encore demain, mais je me souviens de ça parce que c'était frappant. Quand il était adolescent, il a fait un film avec Edouard, de quelques minutes, enfin 2-3 minutes. Et donc Edouard devait représenter un aveugle, quelqu'un qui est aveugle, et qui va visiter un parc. Donc il avait été dans un parc, je ne sais plus où, enfin dans Paris. Et donc on le voit avancer, donc ne voyant rien, hein, voilà, et il s'assied et décrit en fait le paysage qu'il voyait. Donc il y avait un lac, des oiseaux, etc. Il décrit. Et puis à la fin, ça se termine comme ça. Donc Edouard dit, ah, j'ai toujours rêvé d'être noir. Donc c'est ça, je pense que c'est un petit exemple.
Moi, je voulais revenir sur une des questions des premiers arrivés par rapport aux gens qui sont arrivés plus tard et la question d'identification dans ce système-là. Pour être parlé d'expériences personnelles comme Sylvie, quand moi j'étais jeune, je suis malien, quand j'étais jeune en Guinée, je faisais tout pour perdre mon accent soninké à malinké. Et je ne voulais pas voir mes parents autour, parce que mes parents rappelaient toujours que j'étais soninké. Et ensuite, je suis allé aux États-Unis, et là, de 73 à, disons, 78, quand j'ai fait ma maîtrise, je voulais être américain noir. Je ne voulais pas avoir d'accent, donc les Africains me rappelaient l'Afrique, l'autre. Et ensuite, mon accent est revenu. J'avais perdu mon accent complètement. Je pense que j'ai perdu. Parce que mes oreilles, je ne sais pas. Mon accent, et j'avais l'accent des Américains noirs. Et disons, j'ai remarqué de manière très, très perceptible, vers les années 90, mes enfants me disaient déjà, mais Daddy, it's different, you are African. Ça, c'est mes propres enfants qui me disaient ça. Mais vous êtes africain, vous, c'est différent, vous ne comprenez pas. Et donc, je parle de cette question d'accent parce que Nicole en parle beaucoup dans son livre. Pourquoi c'est important de garder les accents dans une situation de différence, mais de vivre ensemble. Ne pas demander à tout le monde de perdre son accent et de parler tous de la même manière. Et c'est seulement quand j'ai réalisé moi-même que j'avais un accent que j'ai commencé à vraiment sympathiser, empathiser, m'identifier à l'autre d'une autre manière. Parce qu'avant, j'essayais d'expliquer l'autre, de faire comprendre l'autre. C'est, malgré les différences, ceci, cela. Mais maintenant, je comprends que, en fait, la chose la plus importante, c'est cette différence-là, c'est cet accent-là. C'est d'avoir cet accent et de pouvoir communiquer avec nos accents. C'est comme ça que... Donc, je pensais un peu à cette question de premiers venus et des premiers... Bon, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je m'imagine que c'est encore plus radical parce qu'il faut toujours tous parler le français de la même manière. Donc, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est en ce moment que j'ai commencé à comprendre la question de différence, d'une autre manière, plutôt que d'éridien, plutôt que post-structuraliste, mais plus avec Édouard Glissant, ainsi de suite. C'est vraiment en ce moment quand j'ai compris que j'ai traversé ce chemin en Guinée, parce que les Guinéens riaient des Maliens tout le temps avec notre accent Bambara, et moi, de surcroît, j'étais soninké. Ensuite, je suis allé aux États-Unis. Les Américains noirs voulaient que je devienne Frenchie, parce qu'ils aiment beaucoup les francophones, et moi, je voulais devenir comme les Américains noirs, et ainsi de suite. Et puis après, j'ai réalisé que j'ai vraiment un accent, qui est mon accent à moi. Et c'est en ce moment que j'ai lu le livre de Nicole qui parle de l'accent de cette manière-là. Bon. Je ne voulais pas trop.
Il y a un mot, je pense, qui est assez récent. Oui, il y a un mot, je pense, qui est récent pour définir enfin, le fait qu'on supporte mal les accents enfin, en France. C'est le mot de glottophobie. Je ne sais pas si c'est une expression. Et alors, une petite anecdote, parce qu'il y avait un chercheur, là, en théorie du cinéma, qui s'appelait Christian Metz, et là, il a raconté une fois, comme ça, un dîner, ouais. Il débarquait de Béziers, et donc il a préparé Normal Sup, et il s'est retrouvé, je crois, à Louis le Grand, et donc il a été interrogé, je ne sais pas, il a dû réciter, je ne sais pas, ça devait être du Racine ou du Corneille, je ne sais pas quoi, Orage, Odé. Alors, il a démarré avec son accent du midi. Et il paraît qu'il s'est fait foutre de sa gueule à un tel point qu'il a perdu, d'après ce qu'il racontait, de son accent du jour au lendemain.
C'est très sérieux. Et Maître, c'était mon prof, donc cinéma, ça c'est bien ça.
Question sur le premier des quatre temps décrits par Nicole au démarrage, les modèles entre guillemets de société pour la ressemblance et l'exclusion. Churchill, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est interrogé. On découvre ce qui s'est passé dans toute son ampleur et on lui demande comment peut-il expliquer le mal. Il dit j'ai 30 bonnes explications pour le mal. Je ne comprends pas pourquoi, par contre, des justes se comportaient comme ils l'ont fait. Et il est interrogé à ce moment-là sur l'apartheid. Il faut rappeler quand même que l'apartheid, c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1946. Et il dit, j'en pense le plus grand mal. Et c'est un exemple assez effarant d'imaginer qu'après cette guerre, les bourses, les africaines, ont bâti un système d'exclusion absolue. absolument monstrueux et tardif, et en créant une machine, j'allais dire, à perdre pour eux-mêmes, puisqu'ils se sont heurtés assez vite aux élites d'origine britannique, qu'ils considéraient comme des migrants récents, hein, alors même qu'il y avait une guerre de 60 ans avant, épouvantable, aux Indiens, et dans la plupart de ceux qui ont œuvré pour la fin de l'apartheid, il y avait énormément dans la profession libérale d'intellectuels anglicans et surtout juifs. C'est quelque chose qui a tué littéralement cette vision effrayante et paternaliste où les bourses, en plus, obligeaient les Noirs à parler l'afrikaans comme eux. C'est très bien expliqué par Coetzee, le grand écrivain, qui lui-même a été presque purgé par les siens à un moment donné dans Disgrâce et d'autres romans. Et ça montre que la folie humaine est quand même possible au XXe siècle, et pas seulement dans les pays de très vieil esclavage. Donc ça doit nous amener à méditer quand même sur la capacité, dans le mouvement actuel, à recréer des systèmes un peu d'apartheid, sous d'autres formes. Et c'est ça qui est très inquiétant, puisqu'il n'y avait pas à l'époque, c'est pas le Commonwealth qui pouvait œuvrer, d'organisation internationale qui puisse s'intéresser à ces sujets. La République sud-africaine a pu durer 50 ans encore. Donc ça doit nous amener à beaucoup de modestie. Alors c'est vrai que l'argument de l'attirance pour la société africaine et d'une forme de compassion comme ce qui se passe à l'heure actuelle dans la Méditerranée est important. Alors sur la Méditerranée, par rapport à ce qui est dit, les premiers désastres humains remontent aux années 80. Les gens qui viennent du Sud et qui meurent, il y a un des grands cinéastes, Van der Kolken, néerlandais documentaliste, qui a commencé son tour du monde quand il a su qu'il allait mourir, il a décidé d'aller où c'était important. Il commence par la Sicile, il trouve des cimetières, on lui explique, dans des villages de la côte sud, c'est pas Lampedusa, c'est la Sicile, qui sont dédiés aux frères et aux amis. Alors il s'agit de qui? Il dit, ben, ceux qui sont venus du sud de notre mer commune, et ils disent, eh ben, c'est l'histoire d'Ulysse et d'Énée. Ils sont chez nous.
Quel est le contraire d'empathie comme mot? Non, antipathie, c'est sympathie.
Oui, tu as raison, antipathie. Je ne sais pas. Il faudrait l'inventer. Ouais. Non, ça n'existe pas, ma connaissance. Ouais.
Et antipathique, c'est ça.
Antipathie, c'est le contraire de sympathie.
Des sympathies, ah, d'accord, oui.
Sinon, sur ton histoire initiale de deux petites filles et la mère de l'une d'entre elles, qui est très intéressante. Ma voisine Françoise me disait qu'à l'époque et à l'école, mais quand on faisait du latin, le thème était Asinus, Asinum fricat. Les cancres se vivent ensemble, au dernier rang de la classe.
Ah oui.
En anglais, surtout avec les LGBT, les homosexuels dans la théorie, il y a une théorie qui s'appelle disidentification. Surtout au cinéma, pour essayer de briser l'identification qu'on a avec la star du film, et qui est une forme d'oppression de non seulement des femmes, mais aussi de hétéronormativité. Donc, je ne sais même pas comment traduire ça. C'est-à-dire.
Hétéronormativité.
Voilà. Donc, il dit, il y a même un livre qui s'appelle Disidentification. Donc, est-ce que c'est le contraire d'empathie? Je ne suis pas sûr. Mais c'est pour faire une critique du récit classique. On parlait de Christian Metz, du récit classique qui fait que la femme, l'homosexuel, les noirs sont mis à l'écran pour le plaisir de du regard de l'homme hétérosexuel. Donc il y a toute une théorie sur ça aux États-Unis et dans la disidentification. Est-ce que c'est possible du point de vue psychanalytique? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment réagir en disant je ne vais pas m'identifier? Ça, c'est autre chose. Mais il y a une théorie qui est bien développée sur ça. Un de nos collègues qui s'appelle José Muñoz, il a même un livre qui s'appelle comme ça, José Muñoz, il a un livre comme ça, sur la disidentification. Indifférent.
Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Sinon, on continue à discuter en prenant un verre. Voilà.
En tout cas, moi, j'aurais voulu présenter Nicole.
Mais tu sais...
Ça, c'était ça, mon voyage. C'était ça, l'objet de mon voyage. Et j'étais tout à fait tranquille, j'étais dans tout. Parce qu'on a même communiqué au texte. Aujourd'hui, tout était prêt, c'était bien. Et puis après... comme je ne peux pas mentir, j'ai dit great, 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 et puis je me suis couché comme ça. Je me suis réveillé à 5 heures en disant c'est à la maison Sugar. Et puis ensuite, j'ai regardé mes textes et j'ai vu que c'était ici, plutôt. Et j'ai pris le taxi. Mais sinon, le fait est que le projet qu'on fait, Nicolas a dû vous en parler déjà. Ça a émané d'une conférence que Nicole a faite à New York, à l'Université de New York. Moi, je l'avais invitée autour de son livre « Cause commune ». Et « Noir et juif », j'ai lu ce livre qui m'a beaucoup impressionné. Et donc, on a commencé une amitié à partir de ce livre. Mais aussi, Sylvie Glissant, Édouard Glissant, on a commencé à parler. On voyait qu'il fallait voir les notions de différence, d'intégration, d'une autre manière. Qu'il fallait vraiment peut-être même les désengager de la théorie comme on connaît la théorie aujourd'hui et qu'il fallait aussi parler du vécu des gens et de ce qui change mais que la théorie plus ou moins camouflait, cachait et ce changement est que en fait quand je lis des livres par exemple qui disent que j'aime être européen. Bon, aujourd'hui, européen, qui est européen? Et même en Afrique, qui est africain? C'est plus clair aux États-Unis, parce que malgré Trump et tout, l'Amérique a changé. Mais pourquoi les gens ne voulaient pas voir ce changement? Et justement, pour théoriser ce changement, c'est que les gens commencent à vivre ensemble et à apprendre les uns des autres à cause de leurs différences. Pas malgré leurs différences, parce qu'on essaie de nous dire il faut s'accepter, mais c'est la différence qui nous enrichit. Et on a commencé à parler de cela. Et puis Nicole a fait ce livre qui est un peu qu'on appelle aux États-Unis mémoire. Peut-être ici on dirait autobiographique, je ne sais pas, sauf qui peut la vie en parlant des suicides et qui aurait pu être mon autobiographie à moi aussi. Et donc, on a parlé, on a commencé à dire, mais est-ce qu'il ne faut pas faire vraiment une conférence au-delà de nous, au-delà de ce que nous écrivons, pour essayer de l'ouvrir à la sociologie, à l'art, à l'économie, à la politique, la biologie, ainsi de suite, et de voir différentes personnes s'adresser à cette question, tout en ayant derrière la tête les gens qui avaient déjà théorisé ces problèmes, dont Édouard Glissant. Et c'était ça, on a fait une conférence avec Michel Viviorca et enfin un lunch à côté là, et Dozon, Nicole et moi-même et Sylvie, et on a dit bon, on va faire cette conférence. Mais vraiment, ce sont les idées de Nicole qui avaient influencé cette proposition de conférence autour d'un sujet comme ça. Des idées qui partent de propos très simples, de notre expérience des Noirs et des Juifs, mais qui devient en fait l'expérience de tout le monde. C'est ce qui nous intéressait. Parce que nous, les Noirs, on se croit unique, nous sommes les plus ceci, les Juifs aussi, mais en fait... voilà, et donc, mais en fait, c'est l'expérience de tout le monde. Donc, comment normaliser, comment essayer de parler de cela? Donc, et nos amis ont tous dit oui à l'invitation. Mais vraiment, Nicole est au début de tout ça. Elle est au début de tout ça, intellectuelle, rigoureuse. Partout, moi, je suis brouillon, elle m'aimait. Voilà, en retard. Je lui faisons comme ça, ceci, cela. Même aujourd'hui, elle m'a donné toutes les informations. Je ne peux pas. Mais j'étais étonné parce que je me disais, mais c'est pas demain. Dans ma tête, je me disais, mais est-ce que c'était pas demain? Alors je dis, quand est-ce qu'on se voit? Elle me dit, à 16h45. J'ai dit 16h45, ça m'a étonné. Parce que je pensais qu'on devrait se voir aujourd'hui et faire la conférence demain.
Et bon, tu as vu tout à l'heure américaine.
Oui, ça veut dire que ça n'a pas encore commencé. Ça va venir. Mais en tout cas, merci beaucoup, Nicole, pour tout ce travail.
Merci à toi. Vous recevrez tous l'annonce de la prochaine. C'est Francine Saillant, ici. Quelle date? Tu te souviens, Mathia, de la date? C'est en février, je crois que c'est le 21, mais je confirmerai à tout le monde. Francine Saillant est anthropologue canadienne. Elle a beaucoup travaillé à la fois au Canada, au Québec et au Brésil, où elle a beaucoup travaillé sur la question noire au Brésil. Ça nous intéressait beaucoup parce que c'est très différent de la façon dont elle se pose aux États-Unis. Mais elle va élargir son propos de manière générale à la question, à partir de l'exemple du mouvement noir brésilien, la question de la reconnaissance. Je pense que ça sera extrêmement intéressant. Elle est extrêmement sympathique. Et je vous invite à venir à la prochaine séance, venir écouter Francine Saillant. Voilà.